Bonjour, moi c'est Martin Guèze. Bienvenue dans Podcan, le podcast de la CAN sur RFI, votre guide, votre petit manuel pour tout savoir sur la 33e Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui sera évidemment à suivre sur la radio du monde. Dans ce cinquième épisode, on va décrypter le groupe E en compagnie d'Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous.
Et en compagnie de Patrick Julliard. Bonjour Patrick.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous.
Direction Douala, aujourd'hui ville mythique, ville de poids lourds, de mastodontes, de fennecs et d'éléphants, ville de surprise aussi, du Dzaleng National de Guinée équatoriale et des Lion Stars de Sierra Leone. Alors, honneur au tenant du titre, l'Algérie. Messieurs, les Verts peuvent-ils le faire? Les Verts peuvent-ils faire le doublé? Un avis, Patrick Julliard.
Qui sait les plus forts?
Évidemment.
Voilà. Non, mais blague à part. Alors, les Verts, je préfère souvent dire les Fennecs, parce que les Verts en France, c'est un peu équivoque. On peut confondre avec la S Saint-Etienne. L'Algérie, bien sûr.
Mais en Afrique, les Verts,
encore,
c'est l'Algérie.
La principale favorite à sa propre succession. Je vous passerai les chiffres sur la série d'invincibilité en cours des Fennecs qui dure depuis avant la précédente édition, qui dure depuis octobre 2018 et une défaite au Bénin depuis. L'Algérie n'a pas perdu un match, c'est exceptionnel. La science tactique de Djamel Belmadi. Bon, sur la phase de qualification CAN, l'Algérie a survolé un groupe assez faible avec un seul petit accroc, c'était un nul au Zimbabwe. Pour le reste, l'Algérie a fait main basse sur tous les points possibles.
Il y avait aussi la Zambie et le Botswana.
Voilà, donc quand même une poule qui était pas, qui était largement à la portée des Fennecs, mais ils ont fait le boulot. Sur la poule de qualification à la Coupe du Monde qui a suivi cet automne, l'Algérie a été contrariée par le Burkina Faso et même sur les deux matchs a perdu puisqu'elle avait fait un partout là-bas.
Sur le match
et sur le match retour,
officiellement à domicile,
elle a concédé le nul de partout. Ce qui était un gros...
Ce qui, effectivement, sur un aller-retour, a arrêté une élimination de l'Algérie au profit du Burkina.
Si ça avait été au goal average particulier.
Tout simplement, je crois que si le Burkina s'était imposé quelques jours plus tôt contre le Niger, lors de l'avant-dernière journée, le Burkina aurait pu dominer, si les résultats avaient été les mêmes contre l'Algérie, le Burkina aurait pu dominer à la confrontation directe l'Algérie, la sortir de la course à aux éliminatoires du Mondial.
Une petite piqûre de rappel... Bon, l'Algérie reste une équipe exceptionnelle offensivement parlant. Mahrez, Belaïli, sans doute les deux meilleurs milieux offensifs excentrés du continent. Slimani, Bounedja en attaque, c'est pas mal aussi. Je trouve qu'il y a un petit flottement au milieu de terrain. On n'a pas trouvé encore, à mon avis, le successeur d'Adlène Guédioura, qui était le taulier, le joueur tout-terrain du milieu. C'est un petit peu frêle.
Même s'il y a toujours Ismaël Benacer, le meilleur joueur de la CAN.
Lui est toujours là, mais il manque un peu un pendant, un joueur de complément, un joueur solide. Mais à cette réserve près, je trouve que l'Algérie est bien armée pour encore défendre son titre et le défendre longtemps.
Hugo Moissonnier, l'Algérie favori à sa propre succession, vous êtes d'accord?
Mais le problème de l'Algérie, c'est que l'histoire ne va pas tellement dans le sens d'une régularité de tous les instants. En tout cas, l'histoire, on va dire, récente, les promesses du Mondial 2014, pour ne parler que d'elles, n'avaient pas été tenues. Là, l'avantage, c'est que vous gardez le même sélectionneur et c'est peut-être lui, avec Riyad Mahrez, la plus grande star et la figure de proue du projet, si je puis dire, algérien, Djamel Belmadi. Ce qu'il fait, effectivement, est admirable, aussi bien sur le terrain que également dans sa communication. Et quand on a l'occasion de suivre, même à distance, des conférences de presse du sélectionneur algérien en Algérie, on se rend compte que c'est une qualité qui n'est pas du tout secondaire. Le fait de pouvoir se présenter et tenir un discours clair face aux médias, j'avais aussi eu l'occasion personnellement de converser avec lui à Ourgada à l'occasion des trophées CAF de début 2020. Alors, c'était la fin du monde d'avant et il avait un peu parlé de sa manière de voir le coaching. C'est pas forcément quelqu'un d'éloquent, très à l'aise avec les mots ou les belles tournures de phrases, mais ce qu'il dit... Un charisme, déjà. Alors ça, c'est très clair, une personnalité très forte. Et surtout, je trouve une vraie réflexion, une profondeur, j'ose le mot, dans sa réflexion par rapport au coaching, par rapport au football. Donc je pense qu'on a là affaire à un coach d'une dimension peut-être sans égale sur les bancs africains à l'heure actuelle. Et c'est peut-être lui le garant de la continuité qui n'est pas exactement la force principale de l'Algérie, même si on se souvient qu'il y avait eu deux participations mondiales d'affilée, hein, 2010-2014. Donc au final, même la réussite de 2019, Elle est intervenue après quelques échecs, mais elle s'inscrit globalement dans un bon mouvement sur une décennie et plus du football algérien.
Alors l'Algérie, pour resituer, pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas forcément vécu, vainqueur de la CAN en 1990, vainqueur de la CAN en 2019, qui avait une poule qui dans l'allure ressemblait un petit peu à celle-là, avec le Sénégal comme gros pays, et puis la Tanzanie et le Kenya de deux plus petites équipes. On va dire que si on devait faire des analogies, la Côte d'Ivoire serait un petit peu le Sénégal cette année, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale représentant les deux plus petits. Lui, en revanche, n'est pas dans notre studio aujourd'hui. C'est un suiveur, c'est un auditeur.
C'est pas un petit, c'est un
géant. C'est pas du tout un petit, c'est un compagnon de route de RFI. C'est un grand ami de Patrick Julliard. Il est identifié DZ du Alzaïr, identifié algérien sur notre antenne. On va l'écouter, il nous a laissé un petit message sur le répondeur Podcan.
Salut le podcan de la CAN, c'est Nabil Djellit. Un petit coucou au passage au GOAT africain Patrick Juillard. Alors si je veux être optimiste, je dirais que déjà je ne les voyais pas gagner la dernière. Je ne les vois pas gagner la deuxième, peut-être qu'ils vont la gagner, mais ça c'est le cœur qui parle. Maintenant ça va être extrêmement compliqué, c'est une compétition ouverte. Ce sera une autre configuration qu'en Égypte pour la sélection algérienne. Ça sera un autre moment aussi du calendrier. Ça dépendra effectivement de l'état de forme des joueurs algériens, de leur état d'esprit. Et ensuite, le talent, lui, il est là, notamment ceux des offensifs. Ça dépendra de Riyad Mahrez, ça dépendra de Belaïli, notamment. Mais cette équipe algérienne a montré quelques signes d'essoufflement, notamment au milieu de terrain et en défense. Donc s'ils arrivent à régler ça, bon, ça sera un client pour le sacre. Sinon, ils seront en difficulté.
Un petit message donc pour le GOAT, comprenez le meilleur de tous les temps, rien que ça, le GOAT africain Patrick Juillard. Est-ce que vous partagez la prudence de votre camarade, de votre ami, de votre compère Nabil Djellit?
Oui, je la partage parce que ce match décisif de la dernière journée des éliminatoires Coupe du Monde contre le Burkina Faso a vraiment été une piqûre de rappel, a montré effectivement des faiblesses, des failles dans la cuirasse. Déjà mentalement, l'Algérie a succombé à une forme de fébrilité lors de ce match, et ça aurait pu très mal tourner, il s'en est pas fallu de beaucoup. Et ensuite, effectivement, je trouve, comme je l'avais déjà dit, mais je partage l'avis de Nabil, le milieu un peu frêle et la défense peut-être en manque de compétition. Ben Lamri qui revient de blessure, qui est revenu cet automne, qui avait été longuement absent le reste de l'année. Donc ça peut être un peu préjudiciable, mais on espère que l'Algérie aura une bonne préparation et que tout le monde sera requinqué au moment de donner le coup d'envoi de cette 33e CAN.
Hugo Moissonnier, une Algérie, des Fennec qui vont aller piano-piano pour finir en apothéose dans ce groupe E, au niveau des matchs. Ça commence doucement, ça finit fort.
Ça commence doucement, encore que, on en parlera peut-être dans quelques instants. C'est la Sierra Leone, le premier adversaire de l'Algérie, une Sierra Leone qui sait parfois y faire hein, face aux géants d'Afrique, le Nigeria. On sait quelque chose, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, ce sera l'autre match de cette première journée du groupe E. La deuxième journée, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Algérie, Guinée équatoriale. Et enfin, le meilleur pour la fin, Sierra Leone, Guinée équatoriale, c'est pas ça le meilleur, je vous rassure. Côte d'Ivoire, Algérie, le choc, peut-être
XXL,
même une finale avant l'heure. Hein. Ça pourrait être sur le papier une finale avant l'heure, en conclusion du groupe E, avec peut-être un bémol. On imagine les deux équipes peut-être déjà qualifiées, plutôt une finale pour la première place.
Oui, si la logique est respectée, ce sera le cas. Mais rappelons que cette affiche Côte d'Ivoire-Algérie, oui, était un quart de finale en 2019. Et c'est la Côte d'Ivoire et l'adversaire qui avait posé le plus de problèmes à l'Algérie sur ce tournoi. Ça s'était joué au tir au but. Et donc, c'est peut-être un signe que ce match pourrait, s'il est décisif, pourrait être vraiment au couteau, entre guillemets, entre ces deux équipes. Mais je pense, comme Hugo, qu'elles seront toutes les deux qualifié sans trembler après les deux premières journées, parce que l'écart de niveau et de talent entre les deux favoris et les deux outsiders dans ce groupe me semble très grand.
Pour finir sur l'Algérie, messieurs, est-ce que vous le mettez numéro 1 favori absolu ou est-ce que c'est plus discutable que ça, Hugo Moissonnier?
Alors moi, j'ai quand même l'impression que ça dépend de deux facteurs. Le premier, c'est Riyad Mahrez, la forme de Riyad Mahrez. Si c'est le Riyad Mahrez du printemps dernier, archi décisif dans l'accession à la finale de la Ligue des Champions de Manchester City, on peut espérer beaucoup de choses. Il a connu un début d'exercice un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il est habité, c'est vraiment le le grand joueur qui déçoit peu en sélection.
En particulier sur les matchs couperets, oui.
Et on se souvient de son coup franc décisif qui qualifie l'Algérie pour la finale de la CAN en Égypte
contre le
Nigeria. C'est vraiment
et son but magnifique contre le Zimbabwe aussi, durant les qualifications, un contrôle incroyable, des dribbles...
Enchaînement.
Voilà, il avait été peut-être l'autre meilleur joueur quelque part de la CAN 2019, Riyad Mahrez. Et puis l'autre donnée, là c'est peut-être davantage un détail, mais Belmadi, on se souvient, c'était plein de la qualité des pelouses algériennes, et c'est vrai que Blida contre le Burkina Faso, c'était bon, il pleuvait, c'était compliqué pour l'Algérie de développer son jeu qui parfois peut être basé sur les qualités techniques.
Alors a priori, comme il joue à Diapoma à Douala, c'est un des plus beaux stades de la compétition.
C'est là que j'allais en venir. Les pelouses camerounaises ont l'air de bonne qualité, et notamment celle du stade qui vraiment a impressionné beaucoup d'observateurs lors du Chan, celui de Diapoma à Douala. Est-ce que ce n'est pas une donnée à prendre en compte pour le confort en termes de jeu de l'Algérie ?
Oui, parce qu'en Égypte, les pelouses étaient plutôt d'un niveau plus élevé que les standards habituels d'une CAN. Je pense que le Cameroun a bien travaillé sur les pelouses. Alors, la répétition des matchs, puisque la formule veut qu'il y ait à chaque fois deux matchs de suite sur le même stade pendant la même journée, peut user prématurément les pelouses, mais... Au départ, je pense qu'elles seront de bonne qualité. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Donc, ça peut être effectivement plutôt favorable au jeu de l'Algérie. Alors, vous parliez de Mahrez et vous avez raison, Hugo. Mais pour moi, le vrai moteur de l'équipe et le joueur le plus régulièrement décisif, c'est plutôt Youssef Belaïli. C'est un peu la star cachée de l'équipe, en fait. Hein. Parce que bon, Bennacer avait été désigné meilleur joueur de la CAN 2019 et c'était pas immérité. Mahrez, ça restera le joueur symbole de cette équipe avec ce coup franc exceptionnel. Mais le joueur qui a le plus imprimé sa marque au jeu et qui a été le plus régulièrement décisif, c'est vraiment Belaïli, qui est un joueur mystérieux parce qu'il fait une carrière en club tout à fait... en dessous de ce que son talent permettrait, il se transcende.
Il a connu des problèmes extrasportifs, voilà. Finalement, assez importants.
À part à l'Espérance de Tunis, pendant une période, il n'a jamais pu mener une équipe de club à lui tout seul, entre guillemets. Et là, il se transcende totalement et l'Algérie est presque son club, en fait. Et ça, je pense que c'est un gros point fort pour les Fennec.
Eh bien voilà, chers auditeurs de Podcan, si vous voulez briller en société, ne dites plus que Riyad Mahrez, Slimani, Bennacer sont les meilleurs joueurs de l'Algérie. C'est Youssef Belaïli.
C'est le hipster's choice.
Exactement, le choix du hipster en bon français aussi. On va refermer la parenthèse algérienne, on va ouvrir celle ivoirienne, à pas d'éléphant, la Côte d'Ivoire. On avait envie d'en dire que du bien de cette équipe, mais voilà, patatras. Ce couac, cette élimination, la Côte d'Ivoire qui n'ira pas à la Coupe du Monde au Qatar l'an prochain. Un match couperet perdu à Douala, déjà, face au Cameroun. Une défaite 1-0, un but de Karl Toko Ekambi. Est-ce que ce coup d'arrêt, le plus récent dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pas le plafond de verre aussi un petit peu de cette équipe d'ivoirienne où on avait l'impression qu'elle peut faire de grandes choses, mais il y a quelque chose qui coince quelque part dans l'équipe coachée par Patrice Baumel.
On peut effectivement se demander si ce n'était pas un moment charnière. Rappelons que la Côte d'Ivoire est plutôt dominée les débats, notamment grâce à une victoire à l'aller contre le Cameroun dans cette poule.
Elle avait été en tête tout le long des éliminatoires.
De la Coupe du Monde, donc en dominant... le Mozambique et le Malawi, le Cameroun à l'aller, puis finalement se faisant dépasser par le Cameroun. Elle s'est qualifiée pour la CAN devant l'Éthiopie, Madagascar et le Niger. Pas forcément
avec une défaite en Éthiopie.
Voilà, pas forcément un parcours qui parle, d'autant qu'il n'a pas été si réussi que ça. C'est une adversité finalement, somme toute, relative. On a l'impression que cette défaite face au Cameroun, très récente, c'est un peu un moment charnière pour des éléphants qui doivent refermer, qui ont dû refermer la page de la génération dorée avec cette apothéose, la CAN 2015, mais aussi trois Coupes du Monde de rang, non-qualification pour la Coupe du Monde 2018. Ils rateront la prochaine Coupe du Monde. Donc, quand on sait que cette histoire de la Côte d'Ivoire, elle s'est beaucoup écrite par la Coupe du Monde aussi, pendant un temps, c'est peut-être un vrai coup d'arrêt qu'il faut mesurer comme étant de forte importance. Et la CAN 2019, un peu moyenne, donc ils jouent gros finalement, ces éléphants de Côte d'Ivoire, sur cette CAN qui arrive au Cameroun.
C'est vrai, ils jouent gros. Je pense que s'ils ne font pas un très bon parcours, c'est-à-dire au moins une place de demi-finaliste, ils rentreront quelque peu dans le rang... au niveau des nations africaines. Déjà, ils ne sont plus il n'aurait pas été tête de série pour les barrages, par exemple, de la Coupe du Monde. S'il s'était qualifié, c'est déjà encore un petit signe. Ils ont reculé dans la hiérarchie au classement mesuré par le classement FIFA. Pour revenir à ce match fatal contre le Cameroun, ils ont aussi payé des états de forme disparates dans le groupe. On voit que Serge Aurier, par exemple, a longtemps mis du temps à retrouver un club et est arrivé un peu court physiquement. Éric Bailly, qui était titulaire et qui a été d'ailleurs fautif sur le but encaissé, lui-même joue assez peu et donc il n'a pas le même état de forme que certains autres joueurs de l'équipe. Il faut espérer pour Patrice Baumel et ses hommes que ces états de forme se seront lissés au moment où commencera la CAN. Mais à part ça, je trouve que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de maîtrise. En fait, elle peut bien jouer par séquence, mais je ne la sens pas dominer ses sujets. Et même contre des petites équipes, on l'avait vu notamment contre le Malawi ou le Mozambique, avoir beaucoup de mal. Alors que normalement, sur le papier, la Côte d'Ivoire doit dominer de la tête et des épaules ces équipes-là, quel que soit le terrain, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc ça, c'est un manque de cette équipe. Et donc c'est tout le travail qui reste devant Patrice Baumel, je pense.
Et pourtant, il y a du beau monde hein, dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Si on veut s'orienter vers des hipster choice, comme le fait Patrick Julliard.
Je lui donnerai le mien après.
Peut-être au milieu, que ce soit Ibrahim Sangaré.
Ah, c'est celui-là, voilà, vous l'avez dit.
On a le même.
On a des transmissions de pensée, Martin.
Mais on est tous d'accord autour de ce plateau dans Podcast. On a bien potassé nos sujets. Ibrahim Sangaré, le milieu du PSV Eindhoven, assez impressionnant. Aux côtés de Franck Kessier, le joueur du Milan AC. Et puis devant, c'est pas mal non plus, Maxwell Cornet qui se réveille finalement quand il joue à son poste.
Quel est son poste? Parce que
alors quand il est pas arrière-gauche,
attaquant,
mais qui joue plutôt
attaquant avec Burnley. Hein,
avec Burnley, il marque plusieurs buts. Il y en a un autre qui joue en attaque, c'est la révélation. Il a rejoint la Côte d'Ivoire récemment. Il avait joué pour les équipes de France de jeunes. C'est Sébastien Allaire qui joue désormais à l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. Il a disputé pour la première fois la Ligue des Champions cette saison. Il cartonne en Ligue des Champions et il s'est prêté au petit jeu du répondeur Podcast. Il nous a appelé Sébastien Allaire.
Bonjour, c'est Sébastien Allaire, attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire. On compte sur tout le peuple ivoirien pour nous soutenir. À nous de faire le travail, à nous de nous qualifier, d'aller plus loin dans cette compétition. Pourquoi pas la gagner? Non, je pense que c'est un tirage où on ne doit pas vraiment regarder qui sont nos adversaires, vu qu'on est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a l'Algérie qui est une très grosse écurie africaine. Donc à nous d'avoir les meilleurs résultats possibles. Ça va être un très très gros match. Il faut sortir victorieux, bien entendu. La qualification, c'est plus qu'un objectif. Et aller le plus loin possible, comme je l'ai dit, c'est d'arriver minimum dans le dernier carré pour moi. C'est quelque chose qui est possible, mais ça ne se fera pas sans le peuple ivoirien.
Voilà, d'accord avec vous, Patrick Julliard, objectif dernier carré pour Sébastien Allaire. Lui aussi vise les demi-finales pour retrouver un peu le standing des éléphants.
C'est ça, c'est une question de considération sur le continent. Il faut souligner tout de même que la Côte d'Ivoire sera malheureusement privée de Gervinho, qui s'est blessé et qui sera absent plusieurs mois, donc pas prêt, quoi qu'il arrive, pour cette CAN. Alors, ça peut paraître anecdotique par rapport au potentiel actuel de la Côte d'Ivoire.
Lui, un des vainqueurs de 2015.
Mais c'est vraiment, sur l'époque où la Côte d'Ivoire rayonnait, c'était clairement le meilleur joueur de l'équipe. C'était le Belaïli de l'époque pour la Côte d'Ivoire, plus que Yaya Touré, par exemple. Et son absence va beaucoup peser parce que c'est un joueur qui a une expérience et un savoir-faire dans les gros matchs que, même si Jérémy Boga, par exemple, est un joueur de grand talent, beaucoup d'autres n'ont pas encore pu l'acquérir. Et lui, il a presque 15 ans d'expérience internationale à revendre. Et ça aurait été un atout majeur, même pour le vestiaire, même pour la maîtrise des événements.
C'est Balo Mahamadou Souleymane depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis un fervent supporter des éléphants de la Côte d'Ivoire.
Depuis Kinshasa, l'équipe, je soutiens pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les éléphants. Et le joueur que je soutiens, c'est Sébastien Allaire, le buteur. Ce sont des éléphants vraiment qui vont remporter cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 vraiment.
Hugo Moissonnier, il y a un beau milieu, il y a une belle attaque. C'est peut-être plutôt dans les postes de l'arrière du terrain que ça pêche un peu du côté de la Côte d'Ivoire.
Bon, on parlait notamment d'Éric Bailly. Peut-être une interrogation sur celui qui avait été l'un des grands artisans du parcours victorieux en 2015, quand bien même il n'avait pas disputé la finale, à savoir le portier Sylvain Ngbouo. Est-ce qu'il est encore l'ancien gardien du tout-puissant Mazembe, le rempart qu'il faut aux éléphants?
Moi, je ne pense pas que ce soit le problème. Sylvain Beaulieu, pour moi, est un bon gardien, assez fiable. Il peut, comme tout gardien, avoir des absences. Mais ce n'est pas pour moi le problème. Pour moi, je vous dis, c'est plus quelle charnière centrale.
Exactement.
C'est-à-dire, quel va être le choix définitif et assuré de Baumel en charnière centrale.
Car si on regarde, il y a quatre très bons joueurs. Hein, que voilà. Soit Willy Boly, Sinali Diomandé, Odilon Kossounou qui joue à Leverkusen. On a des joueurs de Wolverhampton, de Lyon et donc Eric Bailly, Manchester United. Que des très bons clubs, mais
ça.
Qui jouent peu
ensemble. Quelle est la charnière? Et puis, ça dépend aussi du schéma que va adopter Patrice Baumel. On sait qu'il a tendance à privilégier le 3-4-3 qui avait permis d'ailleurs à la Côte d'Ivoire de gagner la CAN 2015. Donc il a un peu calqué son schéma actuel sur celui de cette époque-là. Est-ce qu'on a vraiment un trio complémentaire dans l'axe défensif? J'en suis pas persuadé avec ces joueurs-là, mais je pense que Baumel a bien étudié la question et a dû travailler des combinaisons pour que ça fonctionne. Mais sur ce que j'ai vu pour l'instant, la bonne carburation n'a pas encore été trouvée. Nous verrons si les semaines qui séparent la fin des éliminatoires Coupe du Monde du début de la CAN permettent à Baumel de résoudre définitivement cette équation.
On les place un petit peu en dessous de l'Algérie dans ce groupe, les Ivoiriens, sur ce qu'ils ont montré, sur l'impression générale récente et un peu moins récente d'ailleurs sur les dernières années.
Oui, clairement, l'Algérie est une équipe qui fait peur à tout le monde, qui inspire la crainte. Et ça, c'est au-delà des qualités des joueurs, c'est l'atout majeur de l'escouade de Djamel Belmadi. La Côte d'Ivoire, elle n'inspire pas la crainte, elle inspire le respect. Les gens sont conscients qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité, mais elle n'inspire pas la crainte. Elle l'aurait fait si elle était allée, par exemple, décrocher sa qualification au Cameroun. Là, peu d'équipes l'ont fait, mais là, elle n'a pas passé ce cap-là, donc elle reste une équipe qui est un peu encore dans l'incertitude.
Un petit mot sur le coach, peut-être aussi Hugo Moissonnier de cette équipe. Ils ont changé quelques fois depuis la dernière Coupe d'Afrique,
mais
Patrice Baumel.
Le coach, il est un petit peu là pour retrouver l'esprit de 2015, puisque c'était l'adjoint d'Hervé Renard. On l'a dit, Gervinho, si important en 2015, ne sera plus là. Est-ce que, justement, pour peut-être tourner, pas définitivement, puisqu'il reste encore des champions d'Afrique dans l'effectif, mais est-ce que la clé, c'est pas aussi de voir, on parlait de Sébastien Allaire tout à l'heure, on a aussi Nicolas Pépé, est-ce que la clé, c'est pas d'avoir des joueurs qui enfin prennent la dimension qu'ils doivent prendre en sélection, qui prennent leurs responsabilités, pas forcément se cacher toujours derrière les mêmes joueurs décisifs?
Oui, c'est vrai. Alors, vous pensez qu'il faut un peu libérer les épaules de Max-Alain Gradel du poids qui pèse sur elle. C'est-à-dire que ça reste le joueur maintenant référent, surtout en l'absence de Gervinho.
Lui aussi toujours là.
Et qui est toujours
performant.
Mais
là encore, un héros
voilà.
De 2015.
Donc, effectivement, peut-être que Jérémy Boga, Nicolas Pépé, maintenant, Patrice Baumel s'est distingué en lançant Jean-Evrard Kouassi, qui est
qui a joué à la Fiorentina,
très bon
qui est
joueur,
désormais Anderlecht en Belgique.
Capable
et quelque part, Franck Kessié, c'est un petit peu la même problématique pour lui aussi, d'être,
oui.
De tourner la page Yaya Touré, si on doit
accueillir. C'est ça, il met Kessié déjà en club, il l'a bien tourné. Enfin, il s'est imposé comme un des meilleurs milieux défensifs de Serie A. Et son duo au Milan AC avec Ismaël Benacer, qu'il affrontera lors de la troisième journée, est un des meilleurs binômes à ce poste-là en Serie A, ce qui n'est pas rien. Maintenant, oui, il faut que les joueurs fendent un peu l'armure, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils soient plus dans l'ombre tutélaire des héros de 2015. Et même ceux qui étaient là en 2015, ils doivent maintenant devenir un peu des grands frères. C'est ce que, je pense, arrive bien à faire Max-Alain Gradel. Donc, les espoirs sont permis, mais la Côte d'Ivoire, c'est comme une bonne Formule 1 sur laquelle il resterait beaucoup de réglages à faire. Si les réglages sont faits, elle peut aller plus vite que tout le monde, mais il faut les faire.
Malgré des qualités intrinsèques
c'est ça.
Supérieures à la moyenne.
Le moteur est excellent, il faut maintenant régler tout pour que ça aille plus vite que les autres, mais c'est un travail en cours.
Une Formule 1 à pas d'éléphant, voilà, on aura tout vu dans Podcast. Nous aussi, on va avancer doucement, mais sûrement, dans cet épisode, on va se diriger vers les deux équipes, a priori les plus petites de cette poule. Par quoi vous voulez commencer, messieurs? Est-ce que la Guinée équatoriale, ça vous inspire? Ce pays qu'on retrouve à la CAN, qui a déjà disputé quelques compétitions et qui est déjà même allé assez loin dans la CAN, notamment en 2015, quand elle l'a joué à domicile.
Elle jouait à 12 à l'époque. Mais oui, la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui avait commencé sa, la décennie en présentant une sorte d'attelage, un petit peu. Le surnom de cette équipe, c'est le Nzalang National. À l'époque, c'était plutôt le Nzalang International, c'est-à-dire qu'ils avaient naturalisé à la va-vite des joueurs d'origine libérienne, camerounaise et d'autres pays, avec une certaine complaisance des autorités à l'époque. Et ça n'avait pas fonctionné. Et depuis, ils sont un peu revenus aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de prospection auprès des binationaux d'origine équato-guinéenne. Et ils sont sur cette lancée. Il y a des joueurs qui étaient déjà là au début des années 2010, qui sont encore là. Nsue, l'éternel en attaque. Pablo Ganet au milieu, par exemple, qui a mis un but décisif contre la Tunisie, qui aurait pu permettre à la Guinée équatoriale d'espérer une qualification en barrage Coupe du Monde.
Quand je vous dis qu'on aura tout vu.
Voilà, il y a un esprit de groupe dans cette équipe, il y a un esprit de corps, c'est une équipe qui est capable de faire des coups, mais je ne la vois pas sur un tournoi créer quelque chose comme l'avait fait Madagascar. Pour moi, elle n'a pas le niveau technique pour le faire.
Allez, ça c'est fait, Hugo Mossoni, la Guinée équatoriale, équipe phare de notre correspondant, l'inénarrable... L'incontournable Fabien Essiane.
Qui est camerounais, donc qui aura quelque part son cœur qui
exactement,
battra
entre les deux
doublement,
pays.
Doublement, en voyant jouer la Guinée équatoriale au Cameroun. Juste rappeler que c'est la première participation de la Guinée équatoriale hors de son pays.
Parce pas
que
bien loin, hein, le déplacement sera assez court.
Effectivement, mais finalement la Guinée équatoriale aura été un acteur... pas incontournable, mais un acteur quand même remarquable du football africain dans la décennie passée, en co-organisant la CAN 2012 avec un quart de finale à la clé, puis en organisant tout seul la CAN 2015 en pompier de service et en atteignant les demi-finales, pardon, dans la polémique, notamment après un match contre la Tunisie en quart de finale.
Il y avait eu un match contre la Tunisie avec un arbitrage, disons, arbitrale. Un peu à domicile, et puis ensuite cette demi-finale contre le Ghana avec des vols d'hélicoptères au-dessus des tribunes du stade. Enfin, c'était
un film Hollywood.
Une série Z,
mais plutôt, plutôt série B, série Z, effectivement. La Tunisie, qui a également été liée au destin de la Guinée équatoriale récemment, hein, puisqu'elle était dans le groupe de qualification pour la CAN de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a terminé derrière la Tunisie. Elle a également terminé derrière la Tunisie dans les éliminatoires récentes de la Coupe du Monde. Et c'est intéressant, en posant problème à la
certes.
Tunisie...
Jusqu'au bout.
Ce Nzalang, loin de ses bases et loin, en tout cas,
en
sur la moitié des matchs, loin de l'arbitrage
la
maison, a montré des choses face donc à ce qui est peut-être son meilleur ennemi, la Tunisie. Il y a une autre équipe maghrébine dans son groupe, à savoir l'Algérie. Donc, peut-être un adversaire à prendre au sérieux plus qu'il n'y paraît, plus que l'intuition pourrait nous pousser à le faire.
En tout cas, ils ont de l'expérience, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient déjà là en 2015 dans cette équipe, et ça va les aider, bien sûr. Donc oui, ils ne sont pas à négliger.
Et la Guinée équatoriale qui a fini dans son groupe de qualification pour la CAN devant la Tanzanie, des Tanzaniens qui étaient eux là en 2019, qu'on ne retrouvera pas en 2022. Au Cameroun, on termine par une participation inattendue pour le moins, après un petit peu un match de la honte à Freetown pour la Sierra Leone qui a éliminé le Bénin dans les conditions qu'on connaît. On va quand même le rappeler, Hugo Moissonnier, il fallait absolument que la Sierra Leone l'emporte face aux Béninois. Il y a eu un match à quelques minutes du coup d'envoi, un officiel Sierra Leonais qui arrive avec des noms griffonnés sur une petite feuille en disant... Ces gens-là sont positifs au Covid. Étonnamment, c'était la plupart
des
écureuils,
des Steve Mounier, quelques joueurs, majeurs. Mais... Exactement. Mm-hmm. Match donné à rejouer, un imbroglio complet. Le Bénin n'avait besoin que d'un point. Match rejoué, un penalty, un peu litigieux, transformé par la Sierra Leone. Et la Sierra Leone qui valide donc son ticket. C'est donc la troisième participation. Hugo Moissonnier, vous levez le doigt.
Exactement. Après 94 et 96, donc il y avait eu une elle avait passé une tête dans la CAN à 16 équipes, hein, au milieu des années 90, cette Sierra Leone. Alors oui, il y a un peu ce match de la honte contre le Bénin, mais le parcours qualificatif, il a aussi offert une double confrontation face au Nigeria, un autre client. Et là, étonnamment, la Sierra Leone a été performante.
Elle a été invaincue.
Invaincue, tout simplement. Et alors, à la maison, et là, a priori, il n'y avait pas encore de problème de test Covid, elle avait réalisé un exploit qui paraît toujours aussi inexplicable, et je ne dis pas ça du tout en sous-entendant une quelconque triche. La Sierra Leone était tout simplement menée
faramineux.
4-0 dès la première période, et la Sierra Leone a obtenu le match nul 4 partout. Alors, Était-ce une simple déroute,
un relâchement coupable,
un relâchement
des Super
coupable,
Eagles,
plus que coupable, ouais. inacceptable des ouais. Super Eagles du Nigeria, ou bien était-ce déjà la promesse d'un potentiel,
je ne sais pas si le mot remontada est assez fort,
et n'était-ce pas tout simplement la preuve que cette équipe détenait des qualités au moins mentales? Ça, je laisse les spécialistes.
Moi je trouve que c'est une équipe qui peut être séduisante quand elle a le ballon, qui sait mettre de la vitesse, qui peut marquer des buts, qui a une puissance de feu offensive. Mais par contre, il n'y a pas d'équilibre très affirmé dans cette équipe sur ce que j'en ai vu. Ensuite, je suis désolé, mais cette équipe ne devrait pas être à la CAN. Le trucage des tests Covid aurait dû lui valoir une disqualification. On ne peut pas accepter qu'un match soit rejoué parce que, au bon vouloir de l'équipe qui reçoit, on amène une feuille en bidonnant des tests Covid. Donc ça, j'espère qu'on ne verra jamais ça lors des prochaines éliminatoires, voire de la prochaine CAN. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Ceci dit, les joueurs ne l'ont pas eux-mêmes, ils n'y sont pas forcément pour quelque chose. Ce n'est pas eux que je vise, c'est plutôt une certaine complaisance des autorités avec ces faits inacceptables, cette triche. Mais les joueurs, il y a de la qualité dans cette équipe. Je pense qu'ils seront quand même un peu courts en expérience.
Vous avez des noms
grands événements
à nous citer, puisque on connaissait Mohamed Kallon, il fut un temps.
C'est une autre
époque. Est-ce qu'on a des stars en Sierra Leone?
On n'a pas de stars, mais l'inacceptable Sierra Leone sera donc bien là pendant cette Coupe d'Afrique. On évoquait leur parcours en éliminatoire de la CAN côté Coupe du Monde. Il n'y a pas grand chose à dire, puisque tout simplement éliminé par le Liberia dès le tour préliminaire, et ils ont dû se contenter de matchs amicaux ça et là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de cette CAN qui n'ont pas disputé les éliminatoires Coupe du Monde. Il y a eu cette Sierra Leone, il y a aussi les Comores et la Gambie, c'est donc des équipes qu'elle a affrontées, et une défaite assez récente les Sierra Leone, 2-0 contre les Comores. Ça nous situe un petit peu le niveau de cette Sierra Leone. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Certains autour de cette table pensent qu'ils ne devraient pas être là. À eux de nous prouver le contraire, quelque part, dans cette CAN. Je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent aller chercher. Peut-être une troisième place face à la Guinée équatoriale.
Ça dépendra probablement de la Guinée équatoriale. On rappelle que vous aurez le choc Côte d'Ivoire-Algérie, mais dans le même temps, vous aurez Sierra Leone-Guinée équatoriale. Et c'est peut-être là que se jouera la troisième place. Finalement, et peut-être conclure par notre traditionnel jeu des pronostics, même si là ça paraît un petit peu limpide, mais on peut imaginer qu'il y aura deux victoires avant la troisième journée pour l'Algérie comme pour la Côte d'Ivoire, et que le vainqueur de Sierra Leone Guinée équatoriale puisse éventuellement accrocher, valider un ticket pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième, même si ça évidemment c'est un peu du football fictif.
Je crois que Patrick Julien n'est pas d'accord avec vous, il pensait qu'il n'y aura pas de meilleur troisième justement dans ce groupe.
Je pense qu'il n'y aura pas de meilleur troisième dans ce groupe, que ça sera très partagé. Après la Sierra Leone, ses derniers résultats en match amicaux, c'est une défaite contre les Comores, 2-0. Et il faut souligner une petite particularité, c'est que cette équipe aura sans doute l'avant-centre, voire le joueur le plus âgé de la CAN, en la personne de Kay Camara, qui fut un temps meilleur buteur de MLS. Mais on parle du début de la décennie. C'est un vrai vétéran, mais qui est encore performant. Donc voilà, peut-être qu'il incarnera les espoirs de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous les voyez peut-être du coup avec ce vétéran finir troisième du groupe, même si c'est pas meilleur troisième devant la Guinée équatoriale?
Ça me paraît compliqué, je miserais plutôt sur l'expérience et la rouerie de la Guinée équatoriale.
Et bien on terminera là-dessus, la rouerie de la Guinée équatoriale pour terminer ce cinquième épisode. Merci Hugo Moissonnier, merci
Martin.
Patrick Julliard,
merci
comme d'habitude à Alice Ménard qui est aux manettes de ce podcast, de ce podcast, que dis-je, un podcast que vous pouvez aller noter sur Apple Podcast. On y perd son latin, vous le retrouverez évidemment sur RFI.fr. N'hésitez pas, si vous voulez écouter les autres épisodes, si cet épisode vous a intéressé, vous pourrez retrouver les 5 autres sur nos différentes plateformes, sur nos réseaux sociaux. On vous retrouve bientôt sur les antennes de RFI pour un dernier numéro de podcast. Merci à tous, bonne journée.